Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young Warden Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine je t'accompagne sur les vagues de ta vie de freelance, pour que tu te poses avec moi les bonnes questions, celles qui te font réellement progresser et prendre de la hauteur sur ton activité et ton mode de vie. Alors, je te parle depuis un moment, par interstice dans les différents épisodes, de mon programme d'accompagnement Surf en Freelance. Et cette semaine, je suis super fier de pouvoir te proposer cet épisode avec une des membres du programme, Cécile Glassman. Je trouve que l'histoire de Cécile, elle est vraiment passionnante. Formée en tant que maîtresse d'école, elle a construit l'ensemble de sa carrière au sein de l'éducation nationale, accompagnée du coup des maternelles et aussi des enfants handicapés. Et aujourd'hui, Cécile ne se retrouve plus vraiment dans son activité professionnelle d'enseignante, et elle a donc décidé de se créer son propre métier, en quittant l'éducation nationale. Et vous le verrez dans l'épisode, Cécile n'était pas du tout prédestinée à être indépendante ou entrepreneur, et c'est justement pour ça que j'ai voulu faire cet épisode. J'ai voulu échanger avec Cécile pour vous montrer que même les personnes qui, a priori, n'ont pas ce qu'on appellerait un métier d'indépendant, ou qui n'ont pas l'impression d'avoir les compétences nécessaires pour se lancer, peuvent eux aussi trouver une forme d'activité plus alignée avec ce qui est important pour eux et ce à quoi ils veulent contribuer autour d'eux. Vous le verrez, Cécile est en train de créer une activité qui lui ressemble vraiment à 100%, et c'est passionnant de la voir cheminer et donner vie à ce nouveau métier qu'elle invente tous les jours dans le programme. Et juste avant de vous laisser vous plonger dans l'épisode, j'ai aussi envie de vous partager une petite surprise que je vous ai préparée pour Noël. Il y a maintenant plus d'un an et demi, avec Marie Lanazza, que certains d'entre vous ont entendu dans l'épisode 6 du podcast, on se mettait en route pour concevoir le programme qui est devenu Surf en Freelance. La première chose qu'on avait faite à l'époque, c'était de mener une grande étude auprès des indépendants de nos communautés respectives, pour comprendre leurs besoins, leurs aspirations et leurs défis du quotidien. Et aujourd'hui, à la veille de l'année 2020, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin, créer davantage de choses encore pour accompagner les indépendants dans le développement de leur activité. Et du coup, on a décidé de revenir à la source de tout ça avec une nouvelle enquête, une nouvelle réflexion de fond sur quels sont tes problèmes, tes défis, tes challenges en tant qu'indépendant. Et cette fois-ci, on voulait vraiment te remercier du fond du cœur et aussi tous ces freelancers indépendants qui nous suivent dans le contenu concret. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est la chose suivante. On a décidé d'offrir à 3 personnes, parmi celles qui ont répondu à notre enquête, une place pour rejoindre le programme Surf en Freelance. Ces personnes, du coup, rejoindront la communauté des membres qui avancent ensemble pour créer une activité de freelance qui soit réellement à leur image, au service de leur mode de vie idéal et du sens qu'ils veulent donner à leur travail. Du coup, pour répondre à cette enquête, vous trouverez le lien en description, ou vous pouvez aussi aller sur thomasburbidge.com/enquête pour pouvoir participer à cette sélection de 3 freelances qui nous rejoindront dans l'aventure. Bref, voilà, j'ai assez parlé, je te laisse tout de suite te plonger dans la discussion avec Cécile, et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.
J'aime bien le fait que d'être naturel et de, enfin, de se présenter aux gens comme on est, mmh. et de prendre tout ce qui fait partie de soi. Tu vois ce que je disais dans la vidéo hier sur le Slack, je disais que j'ai regardé et tout, je voyais mes tics et tout, et je me dis bah voilà, c'est aussi moi quoi. Ouais. Tu vois, c'est donc je trouve que c'est important quoi d'être dans une authenticité et de se dire on fait avec
qui on est quoi.
Voilà, avec la vie comme elle est, avec exactement ce qu'on est, ce qu'on a, et ça c'est, je trouve que c'est très apaisant en fait.
Ouais.
Une fois que tu acceptes ça, que tu dis c'est ok, comme dirait Marie, tu viens, tu sais, comme tu es, et
c'est une pression qui s'enlève de tes épaules de devoir
exactement
se conformer à ou faire semblant de.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Cool. Ben bonjour Cécile.
Bonjour Thomas.
Bienvenue sur le podcast.
Merci, merci beaucoup.
Je suis vraiment content de faire cet épisode parce que ben, ce que je te disais juste avant qu'on commence à enregistrer, c'est que tu as un parcours de vie et ton activité aujourd'hui qui est assez atypique, et j'ai envie de montrer aux gens qui se disent peut-être aujourd'hui j'ai pas le bon métier, les bonnes compétences pour, que c'est possible en fait.
Ouais.
Et c'est possible à n'importe quel rythme aussi, parce qu'aujourd'hui, tu es encore dans une phase de transition. Tu n'es pas encore
à
plein temps sur ta nouvelle activité d'indépendante. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je suis trop heureux. Et la deuxième, c'est que bah, j'adore discuter avec toi. Et du coup, pour donner un peu de contexte aux gens, Cécile fait partie de Surf en Freelance.
Ouais.
Ça fait combien de temps d'ailleurs?
Depuis fin juillet.
Fin juillet.
Ouais.
Donc même pas 6 mois.
Ouais.
Et j'ai déjà l'impression que tu as passé énormément d'étapes en ce temps-là. C'est dingue.
Riche, ouais. Et c'est vrai que c'est super intense.
Et du coup, je suis content parce que tu es la première de la famille, entre guillemets, à passer sur le podcast. Et je pense que tu as plein, enfin, à te voir cheminer, tu as plein de belles choses à partager. Donc, je suis trop ravi de t'avoir.
Ouais, merci.
Pour pas partir dans tous les sens, on va commencer du coup par la première question.
Ouais.
Comment et pourquoi, surtout, t'es devenue indépendante?
Alors, en fait, moi, j'ai pris le statut d'auto-entrepreneur en février dernier. Et ça faisait suite à une décision que j'ai prise en juin 2018, où à un moment donné, c'est vrai que souvent, on se rappelle, tu sais, les moments où on prend des décisions importantes dans nos vies. Et je me rappelle très bien. Et en fait, ma directrice me parlait de la classe que j'allais avoir, etc., qui allait être très compliquée. Mmh. Et en fait, je me suis dit, mais c'est plus possible. Enfin, j'aspire à autre chose. Je sentais que j'étais plus en accord avec mes valeurs dans l'éducation nationale telle qu'elle était, etc. Mais voilà, ça prend quand même du temps, cette transition. Comme tu disais, j'y suis toujours. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à beaucoup me documenter. J'écoutais beaucoup de podcasts. Je me souviens, l'été 2018, j'écoutais le podcast de Ticket for Change, qui est un petit format où les entrepreneurs parlent des leçons qu'ils ont apprises de leurs galères, etc. Donc, je courais, tu vois, et le long de l'océan et j'écoutais ça. Et puis, j'ai cheminé, tu vois, je lisais des articles. J'avais aussi, je m'étais inscrite, tu vois, à des cours gratuits chez Live Mentor, etc., des petits cours en ligne. Et j'ai pris le statut en février 2019 aussi parce que les derniers temps, j'étais parfois sollicitée pour, tu sais, des missions pour des magazines, écrire pour des magazines ou faire du consulting pédagogique, et que ça me permettait aussi d'avoir un statut pour facturer. Et voilà. Et donc à ce moment-là, en février, mon projet n'était pas encore précis, mais j'avais vraiment ce désir que, tu vois, je nourrissais par plein de contenu. Mais voilà, sans avoir encore bien défini. Enfin, j'avais mon idée, mais j'avais pas encore
La forme
défini.
que ça allait prendre.
Exactement,
On va
ouais.
rentrer un peu plus dans le concret derrière de
Ouais.
comment tu donnes vie à tout ça une fois que tu as ton idée, mais il y a un premier truc que j'ai envie de partager, parce que tu en parles là des contenus que tu
Ouais.
consommes, c'est que à chaque fois quand tu partages dans notre Slack pour le programme, je suis inspiré et ouais, t'as une capacité à consommer énormément de contenu déjà. J'ai l'impression que
Ouais.
tu lis toutes les newsletters de tout le monde,
Quand
tu lis
même
des
pas, mais
articles, tu écoutes des dizaines et des dizaines de podcasts, et à réutiliser tout ça et à l'appliquer quasi directement, parce que bah, quand tu fais tes petits partages du début de semaine ou du
Ouais,
week-end,
des petits
les
rituels.
petits rituels de partage, t'as toujours la petite pépite qui vient d'un autre contenu que tu réappliques. Et je trouve ça assez dingue, ta capacité à capter toute cette information et à la mettre directement dans la pratique, dans ce que tu fais.
Ouais.
Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous maîtriser plus, en fait. C'est de se
Ouais.
dire, il y a une richesse dingue dans tous les contenus autour de
Ouais.
nous,
Ouais.
et de réussir à la capter et de la mettre en pratique directement, parce que souvent on
Ouais.
la capte et on la met pas en
Oui.
pratique.
C'est vrai que je crois que c'est quelque chose de un peu viscéral chez moi, c'est-à-dire que j'adore découvrir et apprendre, et ça a un énorme pouvoir consolateur sur moi, c'est-à-dire que dans les moments difficiles, je sais que c'est toujours ce qui me fait rebondir de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles perspectives, des nouveaux contenus. Là, tu vois, récemment, j'ai une période où j'étais pas très bien parce que c'était très compliqué en classe, et j'ai regardé beaucoup de vidéos d'Isabelle Padovani que m'avait fait découvrir Marie, et ça m'a énormément apaisée. C'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Après, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que on est en même temps, on a plein de contenus qui s'offrent à nous. Et c'est pas évident parce que notre temps est quand même limité. Et tu vois, en septembre, j'ai dû prendre une décision. J'étais inscrite à pas mal de newsletters et je me suis dit, en fait, tu vas pas avoir le temps de tout lire, de tout pouvoir, comme tu dis, digérer, utiliser. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je me suis désinscrite à pas mal de newsletters. C'est vrai que quand, entre guillemets, je consomme un contenu, j'aime bien, tu vois, si je découvre quelqu'un, le travail de quelqu'un, j'aime lui écrire après pour lui dire merci. Enfin, j'aime que ça soit vivant. Et c'est vrai que mon réflexe tout de suite, c'est de partager, parce que je me dis, mais si moi, ça change ma journée, ma semaine, ma vie, c'est trop bête, quoi, que ça reste.
Caché chez moi, quoi.
Ben ouais, donc j'ai toujours ce réflexe effectivement de partager parce que je trouve ça c'est une source d'émerveillement en fait pour moi. Je crois que vraiment ça m'apporte beaucoup de joie. C'est ce qui me fait tenir dans les moments difficiles. C'est ce qui me fait évoluer. Ouais, vraiment, j'adore.
Mais je vais en profiter d'ailleurs pour te réexprimer ma gratitude sur ça, parce qu'effectivement, nos premiers échanges, c'était
Oui, je me
j'ai
souviens.
l'impression qu'à chaque épisode du podcast, tu m'envoyais un petit mail en disant
Ouais,
merci Thomas, j'ai appris ci, ça, j'ai appliqué telle chose. Et c'est vrai qu'en tant que créateur de contenu, quand on reçoit ce genre de choses, c'est ce qui nous donne envie de continuer, en fait. Et c'est drôle parce que sur l'épisode avec Lauriane, c'est pas l'épisode que j'ai fait juste avant, c'est celui d'encore avant, l'épisode 24. Et Lauriane, elle m'écrivait en me disant « C'est dingue, je reçois plein de messages de gens qui me remercient, ça me donne tellement envie de faire des choses, ouais. Encore plus, encore plus, encore plus. » Et je lui disais « C'est trop bien, parce que c'est quand on porte ce message-là, ou qu'on crée des choses, ou qu'on diffuse ce qu'on fait, ouais. que du coup, on crée ce partage. » Enfin bref, c'est un cercle
vertueux. Ouais, c'est créateur de liens, ouais.
Du coup,
ouais.
merci
pour
ça. Ah,
avec plaisir. C'est vrai que je trouve que c'est toujours, je pense, porteur dans les deux sens, parce que mais c'est vrai que, tu vois, tu dis, quand on écoute un podcast, qu'est-ce qu'on va en faire après ?
Ouais.
Et je pense que de faire un retour à chaque fois à la personne, finalement, toi, ça t'oblige à clarifier qu'est-ce que j'ai appris. Et du coup, il y a des liens qui se créent, tu vois, entre des choses que tu connais déjà et ce que tu as appris. Donc, je trouve qu'à la fois, c'est important de le faire pour celui qui le reçoit. Et pour toi, c'est un cadeau que tu te fais aussi à toi. Tu
vois, prendre le temps de dire, OK, c'est quoi que je retiens et ce qui est important pour moi.
Exactement, ouais, tout à fait.
Trop bien. Ce dans quoi j'ai envie de rentrer, du coup, c'est un peu dans le concret de comment est-ce que tu développes petit à petit cette idée à la base. D'ailleurs, je veux bien que tu la partages avec tes mots,
ouais.
plutôt que je le fasse avec les miens.
Ouais.
Donc, que tu nous partages, du coup, c'est quoi ton idée première ?
Ouais.
Et comment est-ce que petit à petit, tu te dis, OK, ben, je vais construire ça
ouais.
autour de mon activité, quoi.
Alors, en fait, l'idée, elle est née... d'un essai que j'ai fait au départ, c'était spontané, il n'y avait pas du tout derrière de projet, tu vois, que ça devienne une démarche entrepreneuriale, mais j'avais une classe de grande section et j'avais un élève qui était le fils d'une collègue et en entrant en grande section, il savait lire. Donc bon, il y a quelques enfants, mais c'est assez rare, qui arrivent, qui savent déjà lire. Par contre, il n'aimait pas du tout écrire. Et dans cette classe-là, on apprend à écrire, tu sais, l'écriture en attaché, etc.
Ouais.
Et donc, j'avais dit à ma collègue, bah, écoute, ce qu'on pourrait faire, comme j'adore la correspondance, donc, depuis que je suis toute petite, j'écris des courriers, j'aime en recevoir, etc. Je lui ai dit, bah, je vais lui écrire plusieurs fois par semaine. Et comme ça, ça va peut-être lui donner une motivation. C'est-à-dire que là, du coup, c'était écrire pour répondre à quelqu'un, ça avait du sens.
Ouais.
Et on a fait ça et il a pris goût à l'écriture. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à utiliser ? Et puis, il y avait aussi le fait que ça réunissait ce que moi j'aimais. Un besoin, je pense, qui est que l'écriture, c'est important. Alors, moi, dans ma démarche, c'est l'écriture qui... développement personnel, tu vois, qui nous aide à prendre confiance en nous, qui peut être un outil au quotidien pour penser sur notre existence, etc. Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire ça ? Pourquoi pas écrire des courriers aux enfants pour leur donner envie d'écrire ? Et donc, j'avais cette idée-là et j'ai fait une formation, donc Live Mentor développement freelance, c'était mars-avril 2019. Sachant que moi, j'avais tout à apprendre, c'est-à-dire que j'ai fait des études de lettres. Après, je suis enseignante, mais je veux dire, tu vois, comme je te dis toujours, j'y connais rien en marketing, en communication. Enfin,
ouais.
En même temps, c'est très agréable d'arriver comme ça et de se dire, mais on a tout à découvrir. Voilà, moi, j'aime bien aussi être plongée dans des univers que je connais pas du tout, parce que je trouve que du coup, tu évolues énormément. Et donc, j'ai fait ça. J'ai fait ma formation pendant un mois et demi. Donc, je regardais les vidéos, ça, je prenais des notes. Et puis, j'ai fait un coaching avec Théo de Maupéou sur Live Mentor. Et là, il m'a appris, en fait, à aller étape par étape, quoi. C'est-à-dire qu'au début, t'as un projet. Je me rappelle, je me disais, est-ce qu'il faut que je fasse une page Facebook ? Enfin, tu sais, t'as plein d'idées, mais tu sais pas quoi en faire, par quoi il faut commencer.
Par quelle bouche prend tout
Exactement.
Ça, quoi. Ouais.
C'est vraiment, le travail que j'ai fait avec Théo, je pense, c'est vraiment du travail de débroussaillage. Et je me souviens, il m'a dit, bon, bah, la première chose à faire, c'est, tu vas appeler des parents, tu vas aller au contact de ta cible, en fait, et tu vas leur demander si, ils auraient besoin d'un coaching en écriture, combien ils seraient prêts à mettre dedans. Enfin, voilà, s'il y a un vrai besoin, tu vas aller tester ta promesse, quoi, voir si ça fonctionne. Et puis, bah, après cette phase-là, j'ai fait la phase de test, où, comme je te disais tout à l'heure, au début, tu démarres. Moi, au début, donc, c'était, j'ai demandé à des enfants d'amis pour faire des tests et aussi à la fille d'un gars que j'avais rencontré avec qui j'ai échangé sur Facebook. Et donc au début tu sais pas quoi, tu dis bon mais qu'est-ce que je leur raconte quoi. Ça, c'est vrai que et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est vrai qu'on dit toujours que on a peur. Et puis, c'est vrai que ça, je l'ai vraiment vécu à ce moment-là. T'as peur et tu te dis, oh, est-ce que ça va aller? Est-ce que c'est pas trop ci ou pas trop ça? Mmh. Et en fait, une fois que t'es dedans, la peur se dilue en fait. La peur se dilue dans l'action. Et puis, tu commences à avoir des idées parce que quand t'es dans l'action, ben, y a des choses qui viennent. Et j'ai commencé, du coup, je me suis dit, ah, ce serait bien de créer des packs thématiques. Alors, j'ai fait des packs sur un mois, un courrier par semaine sur mes coups de cœur.
Ouais.
Ou sur c'est parti pour l'été, ou voilà. Mmh. Et puis, voilà, après, j'ai rencontré quelqu'un qui a fait un site, etc. Et puis, on est arrivé à l'été, et c'est là que je me suis dit, mais... surf en freelance.
The rest is history.
On reviendra là-dessus.
Je veux bien... je trouve ça hyper intéressant. J'aime beaucoup la phrase que tu viens de dire. La peur se dilue dans l'action.
Oui, oui.
J'avais envie de la répéter parce que je la trouve vraiment pas mal.
Ouais,
ça permet de se dire, bah, ok, là, j'ai peur, mais si j'avance, j'aurai de moins en moins peur en faisant des choses concrètes. Oui. Donc ça, déjà, trop cool. Merci pour cette petite punchline. Et j'aimerais revenir sur cette première étape dont tu parles. Donc ça, cette idée de, ah tiens, je vais écrire aux enfants, ça va les accompagner dans la confiance en eux sur l'écriture, etc. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu te dis « Ok, il faut que j'en discute avec des parents ». Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas voir ton entourage ?
Qu'est-ce que j'avais fait quand Théo m'avait proposé ça, je crois que j'avais déjà fait un questionnaire que j'avais... Oui, c'est ça. J'avais envoyé un questionnaire à deux ou trois amis et je leur ai demandé « Est-ce que vous seriez d'accord pour le faire suivre autour de vous sur... » La lecture et l'écriture, d'ailleurs, c'était pas ciblé que écriture, sur ce que vos enfants aiment lire, écrire, est-ce qu'ils ont des habitudes d'écriture, de lecture. Et donc après, ben, j'ai recontacté les personnes qui m'avaient gentiment répondu en disant, est-ce qu'on pourrait s'appeler? Voilà, je me souviens que Théo m'avait dit, c'est encore mieux si tu peux appeler les gens, même boire un café. Ça, j'avoue que je l'ai pas fait. C'est pas toujours évident, tu veux pas non plus prendre trop de temps aux gens, etc. Mais enfin, c'était super, les gens ont joué le jeu et j'ai eu des réponses. Et c'est vrai que, tu vois, depuis que j'ai lancé mon activité, en fait, c'est tout le temps un va-et-vient. C'est-à-dire que j'ai tout le temps l'impression de modifier des choses grâce à des retours. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est très important de garder cette habitude de toujours se dire... être réactif au retour qu'on a. Et c'est intéressant parce que du coup, tu crées des choses aussi plus adaptées grâce à ces retours.
Ouais, carrément.
Tu vois, je me rappelle, par exemple, j'ai une copine qui m'a dit « Ah, bah tu sais, j'ai une amie qui serait tentée pour son fils, mais elle est un peu rebutée par le prix. Tu vois, elle trouve ça trop cher. » Et c'est là que je me suis dit « Bah, je vais créer l'offre irrésistible dont tu nous parlais dans Surf en Freelance. » Et en fait, je me dis, c'est vrai que peut-être que j'aurais créé cette offre un jour, mais là, du coup, j'avais l'impression de créer quelque chose en réponse à un retour.
Ouais, c'était l'opportunité de le faire maintenant.
Voilà, exactement. Et...
C'est vrai que c'est intéressant de se dire, il y a un exercice que j'aime bien qui rejoint un peu ça, sur dès qu'on a des objections, c'est-à-dire que les gens nous disent « non, j'achète pas pour telle raison ». Moi, il y a une question que j'adore poser à ces personnes-là, c'est « ok, qu'est-ce qu'il te faudrait ?» pour que là, tu achètes tout de suite.
Ah oui, c'est bien. Parce que tu ouvres, du coup, sur du coup, positif, il commence à se dire,
alors attends, du coup, s'il fallait que j'achète maintenant, il me manquerait ça. Et il te liste les choses.
Ouais.
Et du coup, au fur et à mesure de faire ça et de maîtriser ça et de savoir ce que les gens vont dire, parce que en général, les choses reviennent, bah, t'es prêt à proposer derrière. Donc moi, ce que je fais maintenant, des fois, quand les gens me disent ça, je dis, bah, est-ce que du coup, si je rajoute ça...
Justement.
Est-ce que si je rajoute ça,
on
peut y aller?
Ouais.
Et du coup, y a des fois où je l'ai fait, j'ai rajouté quelque chose et monté le prix.
Ouais.
Et la personne m'a dit « Ok », alors que j'avais monté le prix. Mais c'est juste parce que j'ai rajouté la chose qu'elle voulait vraiment avoir, en fait. Ouais. Et ça, du coup, je trouve ça hyper intéressant, du coup, de se frotter, entre guillemets, constamment aux personnes avec qui et pour qui on veut travailler, pour avoir cette donnée. Parce que sans la donnée, on peut faire tout dans tous les sens.
Ouais.
Et on mesure pas, on sait pas dans quel sens on va, quoi.
Mais c'est vrai que, tu vois, ça, c'est quelque chose que tu m'as beaucoup appris dans la formation. Je pensais l'autre fois et je me disais, c'est un peu comme l'image de la porte. Et moi, je me rends compte que souvent, en fait, quand j'avais une porte qui était fermée, tu vois, genre, je m'arrêtais, quoi. Et toi, je pense que ce que tu m'as appris, c'est genre, Cécile, en fait, tu peux frapper à la porte, tu vois, pour essayer d'entrer. Et... Et c'est, je, quand je dis ça, je pense à la fois, tu sais, où j'avais proposé à une librairie qui avait accueilli des ateliers d'écriture gratuits, j'avais demandé plutôt si on pouvait les facturer pour que je sois rémunérée. Et les libraires n'étaient pas d'accord, c'était pas leur politique, etc. Et c'est vrai que moi, je suis restée à la porte, quoi. Mmh. Et après, toi, tu m'as dit, bah, tu vois, ça aurait été intéressant que tu leur demandes pourquoi est-ce que... ils voulaient pas facturer, etc., que tu comprennes...
les valeurs qui se cachent derrière. Ouais.
Et c'est vrai que, honnêtement, je dois dire, il y a deux choses. Il y a déjà que... je pense qu'il y a tout un travail à faire sur l'ego, parce que c'est vrai que les retours, c'est toujours hyper intéressant, etc., mais on vient, en fait, avec ce qu'on crée. Et donc, je pense qu'il y a parfois aussi une part de nous qui est un peu, tu vois, affectée, quoi. Ouais. Et voilà. Comment ça?
Comment ça, non?
Exactement. Et donc, tu vois, je me dis, par exemple, dans cette situation-là, moi, je pense que j'ai une réaction trop sur l'ego. Mm. Donc, tu vois, je me suis un peu, enfin, j'ai pas été plus loin. Ouais. Et en fait, ce que je trouve super dans ce que tu m'as appris, c'est que, en fait, c'est comme se dire, rien n'est jamais fermé. C'est-à-dire, bah oui, c'est une première barrière, mais c'est pas grave. Essayons de voir ce qu'il y a derrière la barrière. Et je pense que c'est une attitude générale qui est super productive, en fait, d'avoir cet état d'esprit-là. Mais tu vois, moi, j'ai encore à travailler là-dessus, d'arriver à me dire faut aller plus loin que les apparences. Faut chercher, comme tu dis toujours, faire le détective.
Ouais.
Voilà, je crois que ça...
Mais je pense que c'est un peu, comme tu dis, c'est un muscle, en fait, à travailler.
Exactement, oui, tout à fait.
Au début, la première fois, c'est impossible d'être parfait tout de suite.
Ouais.
Et c'est justement à force que ça arrive, que tu te dises et que tu aies l'intention de faire ça quand tu rentres, de dire, ok, c'est un peu comme l'exercice que tu as, encore une fois, tu as capté l'exercice, tu l'as remis en pratique direct avec
c'est
le génial.
Voilà. Ah oui.
Du coup, pour ceux qui écoutent, c'était l'exercice de dire, quand il y a un truc, entre guillemets, horrible ou mauvais, négatif qui se passe, de dire, c'est génial et de chercher les raisons pour lesquelles c'est génial.
Ouais.
Et que ça, ce soit la réaction naturelle des choses.
Oui.
Et je pense que c'est un peu la même chose, c'est ce libraire,
exactement,
il dit non, on n'est pas d'accord, c'est pas notre politique, que tu dises bah, génial.
Ouais, c'est intéressant.
Voilà.
Oui.
Et que tu essaies de voir comment est-ce que dans leur politique, ça peut avoir des avantages, que ce soit un truc.
Ouais, tout à fait.
Le lien que je voudrais faire, du coup, c'est. T'as commencé à en parler, tu fais les transitions pour moi, c'est parfait. est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, aujourd'hui, dans ta manière d'essayer de développer cette offre, qui est ton offre d'accompagnement en coaching pour écriture pour les enfants, c'est quoi les différentes étapes que tu as mis en place, les pratiques que tu as mis en place, que du coup tu as fait ce questionnaire, j'imagine que tu as ensuite proposé à ces personnes-là et dans ton entourage. Aujourd'hui, c'est quoi ta méthodologie marketing, entre guillemets, pour développer ton offre?
Ouais, mais en fait, au début, je me souviens, le coaching avec Théo s'arrêtait. Donc, c'était au moment, en fait, où je faisais la formation Surf en freelance, c'était la prospection, tu vois. Donc, je me rappelle, j'avais listé avec Théo toutes les choses qu'il y avait à faire. Donc, tu as créé du contenu. Donc, ça, c'était pas un problème pour moi parce que j'adore écrire. Donc, créer des articles sur LinkedIn régulièrement. Après, il y avait... contacter des gens, tu vois, et puis leur proposer d'échanger, etc. Mmh. Donc ça, par contre, tu vois, je trouvais ça dur parce que, en fait, au début, il y a toujours le côté un petit peu, tu vois, je vais me vendre et tout, on est mal à l'aise. Et puis, il faut dire aussi ce qui est, en fait, quand tu commences, t'as moins confiance en toi. Enfin, au début, tu tâtonnes, etc. Et c'est vrai que je vois la différence maintenant quand je contacte des gens pour échanger, etc. J'ai pas la même posture du tout parce que moi, je me sens plus sereine, je me sens plus... on n'est jamais expert dans un domaine, mais tu vois, je me sens un peu plus avancée dans mon domaine, etc. Donc, quelque part, je me dis, ça, c'est normal au début... en fait, on galère un peu parce que, mais comme tu dis tout à l'heure, c'est aussi un muscle. Plus on le fait, plus on prend confiance en soi. Voilà. Plus on trouve aussi sa manière de communiquer. Donc, il y a eu toute cette période-là. Et puis, j'ai mis en place une newsletter, donc destinée à ma cible, c'est-à-dire les parents d'enfants et d'adolescents. Donc là, c'est une newsletter que j'ai mis en place, tu vois, début octobre. Elle paraît tous les 15 jours et il y a un lien vers un article sur mon blog et ça propose aussi un conseil de lecture, un conseil d'écriture. Donc j'ai mis ça en place. Une semaine sur deux aussi, j'écris un article sur LinkedIn. Ça, je le fais donc depuis plusieurs mois. C'était un peu la partie la plus facile pour moi, où je raconte mon aventure en fait avec les moments sympas, les moments plus durs, et puis aussi j'interview des gens
sur le parcours aussi.
Voilà, des gens qui m'inspirent ou des gens qui ont fait une partie de chemin avec moi et grâce auxquels j'ai évolué. Voilà. Donc, et puis, à partir d'octobre aussi, je me suis dit que ce serait bien de faire des ateliers d'écriture pour rester connectée aux besoins de la cible et puis aussi pour me faire connaître physiquement.
Ouais.
Parce que je pense que déjà, tout ce qui concerne les enfants, c'est vrai que les parents ont besoin d'avoir confiance et que c'est compliqué de faire confiance à quelqu'un que tu connais pas.
C'est clair.
Et puis, l'autre chose aussi, c'est que en fait, quand on se voit physiquement, il émane de nous des choses, enfin notre personnalité, notre gestuelle, nos expressions. Et du coup, bah, tu vois, au niveau personal branding, je pense que du coup, c'est plus puissant parce que les gens voient ce qui est toi, quoi. Et ça, donc, j'en fais assez régulièrement maintenant. Tu vois, j'en ai fait 3 déjà. Et ça va progressivement, hein. On est d'accord que c'est pas miraculeux, mais c'est vrai que je vois que des liens se tissent avec des familles. Et là, par exemple, il y a une maman, son fils est venu à 2 ateliers. Elle m'a dit, ah ben, je vais vous prendre une correspondance en janvier.
Génial.
Donc, je sens que voilà, ça tisse des liens quand même avec les familles. Et puis, ça me permet aussi, du coup, quand les gens s'inscrivent, de récupérer des adresses mail, de leur proposer ma newsletter. Voilà. Et puis, la dernière création marketing, c'est j'ai fait un groupe privé Facebook. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est ça aussi. C'est que Théo m'avait dit, mon coach m'avait dit, ce serait bien que tu ailles sur des groupes Facebook de parents. Il y en a plein. Et puis, que tu interagisses. Et puis, voilà, que tu te fasses un peu connaître. Sauf qu'en fait, je trouvais pas ce qui enfin tu vois je savais pas trop comment me positionner puis je trouvais pas de groupe tu vois lecture et écriture et en fait c'est un avantage dans la vie aussi je trouve des fois quand tu trouves pas c'est que tu dis ça existe pas je vais le faire quoi ou alors
tu faut y aller
mais oui ou comme quand les gens disent j'ai envie de faire un métier mais bon il existait pas bon je l'ai fabriqué enfin tu vois et du coup je me suis dit mais pourquoi je créerais pas mon propre groupe pour les parents, pour les enseignants. Et donc là, en fait, chaque dimanche, je fais une note de lecture. Donc, encore autre chose, un autre format que sur ma newsletter.
Ouais.
Où là, en fait, je fais une note de lecture. Je dis pourquoi les enfants, des gens risquent d'aimer ce livre. Et puis, je propose une idée ou plusieurs idées d'écriture à partir de ce livre.
Et tu commences à avoir de l'interaction et de l'engagement et des échanges dans
oui,
le groupe.
Ouais. Oui, c'est vrai que là, je commence à voir qu'il y a des gens qui conseillent des livres.
Trop bien.
Ou qui échangent entre eux. Ou voilà, donc c'est le début. Mais tu vois, mais tu sais, comme quand tu mets de l'eau à chauffer, tu sens les frémissements. C'est vrai que les résultats, comme je dis toujours, j'ai pas des résultats pour l'instant vraiment en termes de vente, mais tu sens que quelque chose se passe.
Ouais, tu commences, comme tu disais avec les ateliers, à créer du lien avec ces personnes.
Ouais.
Et je pense qu'effectivement, dans ce que tu fais, le lien de confiance que tu vas tisser avec peut-être même des familles entières serait assez fort. Tu vois, en me disant, si je me projette dans 5 ans...
Ouais.
Je me dis, ça se trouve, il y a des enfants avec qui tu vas écrire pendant toute leur enfance.
Oui.
Et tu vas devenir genre quelqu'un que toute leur famille connaît. C'est hyper intéressant, je pense.
Oui, c'est vrai que ça crée des liens forts. Et ce qu'il faut dire aussi quand même, c'est qu'au début, en fait, c'est aussi un pari qu'on fait. C'est-à-dire que moi, je crois à ça, je crois à l'écriture et je crois à l'échange épistolaire parce que je pense que c'est quelque chose de très particulier. Quand on écrit une lettre, en fait, on fait un bilan de sa vie. C'est à la fois introspectif et en même temps, c'est destiné à l'autre. Donc, il y a vraiment, je trouve, il y a soi-même et autrui dans la correspondance. Je trouve que c'est quelque chose de très fort. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais tu vois, tu as toujours des questions. Tu dis, mais et si ça marchait pas si en fait, je leur donnais pas envie d'écrire ou. Et c'est vrai que petit à petit, tu prends confiance et tu vois que, par exemple, là, cet été, il y a une petite fille avec laquelle je correspondais. Donc, j'ai demandé à sa maman, est-ce qu'elle écrit davantage, etc. Et elle m'a dit, elle n'a pas pris davantage d'habitude d'écriture, mais par contre, elle lit. Et puis, j'ai l'impression qu'elle avait pris confiance en elle. Donc, voilà, il y avait des choses qui avaient bougé. Et c'est vrai que dans les ateliers d'écriture, ce qui me fait très plaisir, c'est quand les parents me disent que leur enfant a continué le carnet sur lequel on a écrit.
Trop bien.
Je donne toujours aux enfants un carnet, parce que je trouve que écrire, ça doit se faire dans un objet qui est joli, enfin qu'on doit avoir vraiment plaisir à s'y reporter. Et c'est vrai qu'en fait, les enfants continuent. Donc, c'est bien la preuve que quand on leur propose... un espace, une consigne qui peut vraiment les connecter à eux. En fait, écrire n'est pas un problème. Je pense qu'ils ont cette image de l'écriture comme qu'on a tous, hein, comme un peu quelque chose qu'on doit faire, de scolaire. Ouais. C'est un peu comme nous quand on fait de l'administratif.
Ouais, c'est clair.
Vrai que. Mais si en fait on leur montre que écrire, ça peut aussi parler d'eux. En fait, ça peut être connecté à eux. Là, ils le prennent différemment.
Ouais, c'est clair. Il y a deux branches là que j'ai envie d'aller traiter.
Ouais.
Je vais en choisir une de manière un peu arbitraire parce qu'on est sur les ateliers, donc comme ça, on passe à la suite après. Là, t'es en train d'explorer une autre forme d'atelier, il me semble, pour bientôt aussi, de passer, comme on disait avec le libraire, d'un modèle où c'est gratuit à un modèle payant.
Oui.
Et j'ai vu d'ailleurs passer sur Facebook
un événement.
Un événement. De
prépare son bullet journal.
Exactement. Pour préparer son bullet journal pour 2020. Ouais. Et ça, c'est du coup pareil, c'est pour ta destination étudiante, c'est ça? Pas étudiante, pardon.
Adolescente.
Adolescente.
Ouais, absolument. Mais là, c'est bien aussi, tu sais, on dit toujours, bon, des fois, faut sortir de sa zone de confort, etc. Et ça, je l'ai jamais fait. Donc, j'ai commencé à pratiquer pour moi le bullet journal. Mais des fois, c'est intéressant aussi de se dire, tiens, je vais lancer ça. Et puis, en fait, je vais me former pour.
Ouais.
Donc, je sais que pendant les vacances de Noël, je vais me former pour ça, pour animer cet atelier-là, et ça va être super parce que du coup moi je vais apprendre plein de choses, etc. Et oui, je crois que ça marche beaucoup comme ça. En fait, on n'arrive pas avec une idée et puis tout ce qu'on va faire, etc. C'est on est en chemin et puis on a des nouvelles idées, on se challenge et
on les teste, on apprend pour les délivrer.
Exactement.
Et on voit est-ce que ça m'a parlé ou pas, quoi.
Et en fait, je crois que c'est vrai que souvent, on se dit, oh là là, si ça marche pas et tout, c'est normal, on a peur. Mais je crois que faut accepter que ce soit imparfait et puis que de faire, quoi.
Ouais.
De toujours faire. Ouais.
Trop bien. Merci du coup de parler un petit peu plus de ça, parce que ça donne aussi du contexte aux gens qui nous écoutent, je pense, de se dire, premier point, t'as parlé aux gens avec le questionnaire. Le deuxième, c'est des ateliers pour créer du lien et tisser du lien avec les personnes avec qui t'as envie de travailler. Prochaine étape, c'est aller encore plus loin et proposer des ateliers avec encore plus de valeur.
Ouais, tout à fait.
Et du coup, qui sont une forme de rémunération pour toi.
Ouais.
Parce qu'effectivement, des ateliers gratuits, on pourrait en faire toute la journée pour tisser du lien, mais à un moment, faut qu'on puisse vivre de ce qu'on fait.
Ouais.
Donc, c'est intéressant de voir le cheminement aussi qui avance. Il y a un autre point sur lequel j'ai envie de venir, qui correspond un peu à la toute première question sur le pourquoi tu t'es lancé.
Ouais.
J'ai l'impression, et quand on parle là... les gens ne te voient pas quand t'en parles, mais quand tu parles du fait de correspondre avec des enfants et que ça leur donne confiance en eux, tu t'ouvres et t'as un grand sourire. C'est quelque chose qui te parle beaucoup, viscéralement presque, non? De contribuer ça, en fait.
Je pense que je me suis fait la réflexion récemment, je me suis dit, en fait, t'es plus une coach qu'une enseignante. C'est-à-dire que dans ma manière d'enseigner, je pense que ce qui a toujours été prioritaire pour moi avant de transmettre des savoirs, même si je transmets bien sûr des savoirs, c'est accompagner l'enfant qui m'est confié. Et ce que je trouve formidable là-dedans, c'est que c'est un voyage différent à chaque fois. C'est-à-dire que chaque enfant a des besoins différents et qu'aussi, ben, en accompagnant quelqu'un, on est soi-même transformé. C'est le principe de la transmission. Et c'est vrai que moi, j'adorais l'école quand j'étais enfant. Et je suis frappée par le nombre d'enfants et aussi d'adultes, tu sais, quand on lit des interviews, même de personnalités, etc., qui n'ont pas aimé l'école ou qui se sont ennuyés à l'école ou pire, pour lequel l'école a été un lieu de souffrance. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'inimaginable pour moi. C'est-à-dire, je me dis, mais c'est l'échec de ce que doit être l'école, c'est-à-dire ça doit être un lieu justement où on arrive, où on est bien, où on a envie d'apprendre, etc. Et donc, moi, ma priorité, ça a toujours été de donner envie aux enfants d'apprendre et confiance en eux. Parce que je pense que quand tu as confiance en toi, après, tu vas trouver ta voie, enfin, il y a pas de souci, quoi. Alors, j'ai travaillé aussi dans des contextes particuliers, j'ai travaillé avec des enfants de maternelle et des enfants handicapés uniquement. J'ai jamais eu de classe d'élémentaire, etc. Et c'est vrai aussi que c'est des publics avec lesquels il y a beaucoup de liberté, on est très centré sur la psychologie aussi, tout l'aspect accompagnement psychologique. Voilà, et donc, ben c'est vrai que, tu vois, quand il y a eu cette histoire l'année dernière d'une petite fille qui s'est suicidée parce qu'elle était harcelée, c'est vrai que quand j'entends des choses comme ça, je me sens, je me dis, ben, on a failli à notre mission collective, quoi. C'est quelque chose d'insupportable pour moi. Et donc, je crois que oui, ce qui m'anime, c'est de me dire, d'arriver à convaincre chaque enfant que il a ce qu'il faut en lui pour être bien, pour trouver sa place dans le monde. Et parfois, c'est des toutes petites choses et on a l'impression qu'on les voit pas parce que c'est pas des choses qui sont forcément valorisées mais par le système scolaire. Mais chacun, je pense, a un domaine d'excellence.
Clairement.
Donc voilà, c'est ça. C'est ça qui me fait me lever chaque matin.
Bah, c'est beau. C'est, de toute façon, tu le sais, hein, mais ça rejoint mes convictions de dire quand on trouve ça.
Oui, ouais.
Quand on trouve ce truc-là qui, dans nos tripes, ça nous bouge et on avance, comme je le disais à la conférence où tu étais la dernière fois, quand on a un pourquoi pour soi qui est assez fort, et toi, c'est du coup ce que tu racontais au début, d'aller vers un modèle de transmission qui est plus en raccord avec tes valeurs, et un pourquoi pour les autres, et là, du coup, c'est ce que tu viens de raconter.
Ouais.
On a tellement plus de force pour aller... faire tout ce qu'il faut faire et construire des choses incroyables, en fait.
Absolument. Et les ateliers d'écriture, tu vois, c'est aussi des moments où je suis connectée à mon pourquoi. C'est-à-dire que je suis à ma place, quoi. Je me dis, je propose des choses aux enfants, je vois comment ils réagissent. Et quand les enfants sortent de l'atelier, qui disent « Ah, leurs parents, c'était super », etc. Et que je vois ce qu'ils ont fait, que je les valorise et qu'ils sont fiers d'eux, c'est voilà, je me dis, mais c'est pour ça, quoi, que...
Ouais, tu touches, quoi, le...
Exactement. Et c'est vrai que dans les moments plus difficiles, parce que c'est vrai, il faut dire ce qui est dans l'entrepreneuriat, il y a des moments où c'est génial, et puis il y a des moments où c'est dur, quoi. Enfin, tu dois y croire, alors que, bon, parfois, t'as pas forcément tous les signes extérieurs que tu attendrais, etc. Je pense que dans ces moments-là, c'est ça qui nous fait tenir, c'est de se dire... Ben, c'est ça, c'est ma mission, quoi. C'est ce en quoi je crois.
Je suis à la place qu'il me faut.
Exactement, ouais, tout à fait.
L'autre sujet dont j'ai envie qu'on parle ensemble, c'est comment tu gères un peu cette transition. Ouais. Aujourd'hui, tu es encore enseignante à l'éducation nationale. Cette activité, tu la développes à côté, en même temps, un peu en mode side project qui prend de plus en plus de place. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent... J'ai un truc à l'intérieur de moi qui bouillonne, qui me donne envie d'y aller, mais j'ai peur de la transition trop brutale.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment toi tu vis le fait de ne pas avoir fait une transition brutale et d'y aller pas à pas ?
Oui, c'est intéressant comme question. Je trouve que c'est l'aspect peut-être le plus compliqué pour moi. C'est un peu compliqué dans le sens où je suis dans un univers dans lequel je me sens plus vraiment à ma place, qui est l'éducation nationale, et je suis en train de construire mon activité freelance, donc je suis pas encore complètement dans mon activité freelance. Donc c'est vrai que c'est assez inconfortable parce que il y a ce côté on n'est pas encore posé quelque part, même si on n'est jamais vraiment posé quelque part, mais tu vois, voilà. Moi, il y a aussi le fait que j'ai ce désir très fort de partir à la fin de l'année et que il faut que mon activité me permette de vivre parce que voilà, j'ai deux enfants, etc. Et donc, ça demande aussi d'apprivoiser ma peur parce que à la fois il y a cette confiance que j'ai en la vie et dans la mission que j'ai, je sens que je suis sur le bon chemin. J'ai plein de petits éléments qui me disent, mais tu vois que tu es bien là. Et en même temps, ben, c'est vrai que c'est humain, quoi. Je me dis, est-ce que je vais y arriver à temps, etc. Donc, ça, c'est le plus difficile. Après, c'est vrai que c'est, je pense, c'est à la fois un côté positif, c'est que comme j'ai moins de temps, ça m'oblige à aller à l'essentiel. Et que effectivement, moi, je pouvais pas, tu vois, passer 6 mois à peaufiner mon projet et tout, et qu'il fallait tac 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 que
Ça
je
allait
me forme.
avancer.
Voilà. Ça, c'est pas mal parce que du coup, ça t'oblige, voilà, à prioriser.
Est-ce que c'est ça, du coup, qui t'a poussé à directement te faire accompagner, à acheter une formation chez Live Mentor, puis à te faire coacher par Théo?
Oui, mais c'est drôle parce que c'est venu un peu. Enfin, je pense que ça s'est préparé. Et puis un jour, oui, c'est venu comme ça. D'ailleurs, à la base, c'était c'était avec une copine qui avait aussi un projet qui ressemblait au mien. Et on s'est dit, on va se. Un peu, c'est drôle parce que un peu sur un coup de tête, les choses souvent, je trouve, se préparent en amont en toi. Et puis un jour, quand tu prends la décision, t'as l'impression que c'est sur un coup de tête. C'est pas sur un coup de tête, mais ça jaillit comme ça. Ouais. Oui, il y avait la formation et le coaching. Et oui, après, en fait, moi, j'adore me former, être accompagnée. Je trouve que c'est très sécurisant. Ça permet d'avancer énormément. Enfin, c'est vrai que je me dis, j'en serais jamais là. J'aurais jamais pu mettre tout ça en place si j'avais pas, tu vois, été formée, accompagnée. Là, par exemple, le marketing, je commence à comprendre des choses, à aimer ça, etc. Et je me dis, mais si on m'avait dit un jour que, tu vois, j'allais faire du marketing, c'est vraiment...
Ton premier jour à l'éducation nationale, on
oui,
te
c'est
dit,
ça.
Cécile, dans je ne sais combien d'années, tu feras
tu
du
verras.
Marketing, tu vas adorer ça.
C'est ça, ouais. Non, c'est vrai que... Il y a ce côté inconfortable et en même temps, dans les moments inconfortables où on sort de notre zone de confort, on apprend énormément et on se transforme énormément. Donc ça, c'est vrai que cette sensation de transformation puissante, et c'est vrai que je dis toujours, ça paraît excessif, mais je dis toujours, la formation a changé ma vie pro et perso, c'est vraiment une transformation de nous-mêmes de façon générale. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu crées, mais tu crées avec ce que tu es, quoi. Donc forcément, tu réfléchis sur toi. La relation client, ben, c'est la relation avec autrui. Donc, et ça, c'est vrai que c'est puissant. Je pense que c'est ça aussi qui me donne de la force dans les moments où c'est compliqué, parce que faut accepter de faire confiance à la vie et de se faire confiance en sachant pas ce qui adviendra. Donc c'est quand même un lâcher prise, ce qui n'est pas ma force première, mais je trouve que ce qui est puissant, c'est que tu sens toute la transformation intérieure que ça t'apporte, et ça, c'est vrai que c'est quand même une aventure extraordinaire toujours de se transformer.
Bah ouais, c'est clair, je te rejoins totalement, et j'étais très touché d'ailleurs en découvrant le titre que t'avais donné à l'article que t'as fait sur notre formation. Quand tu l'as sorti sur LinkedIn, je m'attendais pas à ce titre-là, et je me suis dit, waouh, c'est fort
quand même.
C'est fort, donc merci pour ça.
Avec plaisir, c'est vrai.
Je pense qu'effectivement, il y a dans ce que tu disais là, j'adore cette vision, cette manière de regarder les choses, de se dire, quoi qu'il arrive, life is happening for me. C'est une phrase de Tony Robbins que j'adore, mais qui dit, la vie arrive en notre faveur.
Oui.
C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est pour nous que ça se passe.
Oui.
Et pas se dire, la vie agit contre nous, elle nous met des freins, elle nous bloque, tous ces événements de merde, entre guillemets, viennent pour nous faire du mal.
Oui.
Mais j'adore me dire, en fait, ça arrive pour moi, à mon service, pour me pousser dans la bonne direction.
Oui.
Et ça donne, encore une fois, ça rejoint tout ce qu'on disait au tout début, ça donne énormément de légèreté de se dire, ok, c'est une bonne nouvelle, en fait.
Oui, c'est génial,
Si j'arrive à trouver la raison, mais c'est une bonne nouvelle, quelque part.
Oui.
Et clairement, ça, je pense que ça accélère notre transformation, de se dire, ok, là, il vient de se passer telle chose, mais c'est pour m'aider à aller vers ce qu'il faut.
Qu'est-ce que j'en fais?
Qu'est-ce que j'en fais? Comment je le retransforme? Et ça arrive à notre service.
Oui.
Et ça, c'est, j'aimerais bien que les gens retiennent ça, c'est la vie se déroule à votre service.
Oui.
Et pas contre vous.
Oui, tout à fait.
Je trouve que c'est hyper réassurant comme.
Et il y a aussi quelque chose, tu vois, que je me dis souvent, je pense, qui est valable pour toutes les personnes qui accompagnent ou qui forment, c'est que je me dis toujours que l'inconfort, c'est toujours une bonne expérience, Par exemple, moi, je me sens dans l'inconfort pour tout ce qui est technologique, etc. C'est un langage que je ne maîtrise pas. Et je me dis toujours, c'est important de vivre ça parce que toi, tu vas coacher des enfants qui ont cet inconfort dans l'écriture. Donc, quelque part, c'est bien de le vivre en toi, ce que eux vont vivre
génial.
D'un autre côté, tu vois.
Ouais. Enfin, pas génial qu'ils vivent de l'inconfort, mais c'est trop bien cette distinction que tu fais là, de dire pour être dans leur botte vraiment, en fait.
Exactement, ouais, tout à fait.
Et ça rejoint un peu ce que tu disais et ce que j'essaye de montrer, que c'est ça le marketing, de dire, en fait, faire du marketing pour soi quand on est freelance, c'est développer la plus grande empathie possible pour la personne à qui on peut vendre ce qu'on fait,
ouais,
pour juste comprendre sa vie mieux qu'elle puisse le comprendre,
ouais,
même,
ouais,
parce qu'on a cette réflexion de se dire
absolument
à quoi ça ressemble pour elle de son côté, avec ses yeux, avec ses pieds dans ses baskets.
Oui. Ouais.
Et quand on arrive à vraiment bien le faire, ça crée forcément un lien où on a envie de servir la personne.
Ouais.
On n'est pas en train d'essayer de lui voler quoi que ce soit.
Exactement.
On est là pour la servir.
J'ai eu, parce que tu m'avais parlé de cette sensation que tu avais eue un jour où je t'avais posé des questions, bah c'était sur les ateliers d'écriture.
Ouais.
Et tu m'avais expliqué plein de choses et sur cette histoire d'essayer d'aller plus loin, etc. Et tu m'avais dit que à quel point m'avoir servi t'avait,
ouais,
rechargé en énergie. Et c'est vrai, c'est marrant parce que je l'ai vécu ce week-end où j'ai eu une maman en ligne qui m'expliquait que son fils, voilà, était un peu agité à l'école, etc. Et donc, je lui ai parlé de ce que je faisais, de mon approche. Et après, elle m'a envoyé des messages pour me demander des conseils de livres sur tout ce qui est la gestion des émotions, avoir plus de sérénité, etc. Et donc, je lui ai donné des conseils de livres. Et c'est vrai qu'en le faisant, je l'ai repensé à ce que tu me disais. Et je me disais, mais c'est fou, quoi. À quel point ça fait du bien de te dire à ce moment-là, ben, je suis à ma place pour servir quelqu'un. Et oui, du coup, tu as l'impression d'une sorte de flux d'énergie.
Ouais.
Tu sens que tu donnes quelque... En fait, tu donnes à la personne ce dont elle a besoin à ce moment-là. Et c'est vrai que ça, je pense, c'est très puissant comme expérience. Et effectivement, ça change le rapport au client. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, cette personne, qu'un jour, qu'elle était intéressée, etc. Elle m'a pas dit, là... Enfin, tu vois, elle a pas fait un acte d'achat. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé, là, dans cette relation... C'est puissant, ça va au-delà de l'achat qu'il y aura derrière, etc.
C'est clair, et ça crée aussi une différence, imaginons, dans les prochaines années,
ouais,
elle a un lien beaucoup plus fort avec toi,
ouais,
qu'avec n'importe quelle autre personne qui va,
oui,
lui proposer peut-être les mêmes services.
Oui.
Parce que tu as créé ce lien avec elle.
Ouais.
Et ce que j'aimerais dire juste aux gens qui nous écoutent sur ça, c'est que c'est pas seulement restreint aux personnes qui font de l'accompagnement ou de la formation,
oui,
de pouvoir avoir ce genre d'engagement auprès de
bien
ses clients.
Sûr.
C'est juste une question de trouver les personnes qui nous inspirent à tel point qu'on est prêt à créer ce lien de long terme avec eux.
Ouais.
Et ça, c'est accessible pour tout le monde, en fait.
Ouais.
C'est pas que quand on fait de l'accompagnement et de la formation.
Et ça change, je trouve, tu vois, le marketing, tu en parles souvent dans tes podcasts, de cette mauvaise presse qu'a,
ouais,
ce mot et qu'a ce concept. Et vraiment, moi, c'était une découverte parce que je me suis dit, mais en fait, Cécile, le marketing, la base, c'est tout ce que tu aimes. C'est-à-dire, c'est la rencontre, c'est l'altérité, savoir comment l'autre fonctionne, etc. Donc, finalement, c'est à l'inverse de cette image un peu superficielle qu'on a de vente agressive. Ça, c'est, je crois que d'avoir découvert ça, pour moi, mais c'était non seulement un soulagement, mais aussi une révélation, parce que c'est vrai que du coup, ça change la manière de faire de la prospection. C'est-à-dire que ça, je crois que c'était aussi dans un dialogue qu'il y avait eu sur le groupe, là, sur le Slack, dans la formation. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive en fait, quand tu as cet état d'esprit-là, quand tu vas à la rencontre de quelqu'un, bien sûr que tu aimerais lui vendre ton produit, etc. Mais le pire qui peut t'arriver, c'est d'avoir rencontré quelqu'un de nouveau, et d'avoir appris des choses sur lui, voilà. C'est, et donc tu te dis, bah ça va comme pire des solutions.
Ouais,
mais
clair.
Oui, donc
on risque pas grand chose finalement.
Exactement.
Trop bien. On va aller petit à petit vers les dernières questions rituelles,
ouais,
du podcast. La première étant, du coup, quelle a été ta plus grosse galère? Encore une fois, t'es pas à 100% dans cette activité encore.
Oui.
Mais j'imagine que, comme tu le disais, de toute façon, il y a toujours des moments durs dans l'entrepreneuriat.
Ouais.
Qu'est-ce que tu peux nous partager ta plus grosse galère dans ta vie d'indépendante? Ou en tout cas quelque chose qui t'a un peu heurté
Mais je pense que c'est vrai que c'est pas directement sur la vie d'indépendante, mais c'est plus sur l'énergie liée au fait que je sois à la fois dans mon métier d'enseignante et dans cette nouvelle activité. J'ai eu une première période là de classe très compliquée c'est vrai que il y a une sorte d'accumulation de choses difficiles ces périodes de la vie où tu sais, t'as l'impression que chaque jour et puis tu sais pas, t'es un peu démunie, quoi, tu sais pas quoi faire. C'est embêtant parce que je trouve que dans ces moments-là, on est dans une énergie de combat qui est pas quelque part une... Enfin, le combat, ça peut être bien, mais il y a au bout d'un moment, c'est pas toujours une très bonne énergie, quoi, dans l'opposition. Ce que j'ai retiré de ça, c'est que à un moment donné, j'ai dû lâcher, quoi. C'est-à-dire que la seule solution... c'était de me dire, ben, je lâche, je vais... Alors, c'était pour moi, là, dans cette circonstance-là, c'était, ben, je vais en faire moins dans mon travail de classe parce que, à ce moment-là, parce que sinon, ce ne sera pas possible. Et c'est vrai qu'on parle souvent avec Marie et toi de l'écologie personnelle. Et c'est vrai que quand tu es entrepreneur, je trouve que tu es un peu tout le temps dans ton projet, tu es un peu obsédé, etc. Et puis, c'est dur parfois de couper. Enfin, en tout cas, moi, je pense que j'ai du mal avec ça. Mais il y a des fois, tu te dis, le problème, c'est que si un jour ça ne va plus, bah, du coup, je vais plus être là pour personne, quoi, ni pour mon activité, ni pour mes clients, ni pour les gens que j'aime. Et je pense que... ça, c'était un moment très dur, mais ça m'a appris que parfois, quand tu as des périodes comme ça difficiles, il y a quelque chose en nous à changer qui peut être un décalage dans la perception ou dans l'attitude. Et c'est vrai que j'ai fait ça et c'est drôle comme ça inverser la tendance. C'est-à-dire que les semaines d'après, j'étais les bonnes nouvelles se succédaient et je crois qu'il y avait quelque chose au niveau de mon énergie ou qui fallait changer, quoi, qui allait plus. Et c'est vrai que c'est ce qu'on dit toujours, c'est quand on dit ben c'est tout est lié, le pro et le perso, mais je pense que ouais, c'est
une période de charge un peu mentale, physique, émotionnelle qui crée du coup tout un univers pour sa vie en fait qui devient bloquant presque.
Exactement. Ouais.
C'est intéressant, je pense qu'effectivement, comme tu dis, c'est souvent un léger décalage, et on revient à cette idée de voir les choses sous un autre angle.
Oui.
Un léger décalage de comment on regarde les choses, ça change notre énergie, ça peut changer notre physiologie, ça peut tout changer.
Ouais, tout à fait.
Et ça peut recréer une nouvelle dynamique.
Exactement.
Je pense qu'il n'y a pas de secret de se dire, il faut faire comme ça.
Absolument. C'est chacun.
Ça serait trop magique,
mais
je trouve ça intéressant que tu observes, que t'aies observé ça et que tu aies l'occasion d'observer.
Ouais.
Merci. La prochaine question, du coup, c'est si tu étais face à ton toi du passé quand tu te lances, du coup, en février, c'est le tout premier jour où tu te dis « Ok, ça y est, c'est parti
».
C'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même après tout ce temps, à ce premier jour ?
Mais je crois que le conseil que je me donnerais, c'est... ne reste pas seul et fais-toi accompagner, forme-toi, parce que je trouve que c'est incroyable la manière dont les autres, alors que ce soit les formateurs, les coachs, mais aussi les gens qu'on côtoie et avec lesquels on avance, nous apportent. Enfin, c'est vrai que je pense que c'est primordial, quoi, de
s'entourer de personnes qui nous accompagnent sur le chemin.
Oui, exactement. Je crois que... je pense que les autres, c'est une clé, quoi. Parce que c'est une clé, ça nous inspire, ça nous challenge, ça nous donne aussi un regard sur nous, ça nous aide à nous décentrer. Moi, c'est vrai que j'ai découvert, du coup, le coaching. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Là maintenant je fais un travail avec Marie et je trouve c'est pour moi c'est un voyage, quoi. C'est vraiment c'est un voyage à l'intérieur de soi-même, quoi. C'est génial.
Bah, c'est clair que moi aussi, depuis la première fois où je me suis accompagnée, c'était avec Marie aussi, à l'époque, quand j'ai vraiment découvert son travail, du coup.
Quand tu étais un petit chiot qui courait après
les croquettes, tout à fait. J'ai l'impression qu'il est encore quelque part, là, c'est sûr. Hein, je travaille avec lui encore. Ouais, quand j'ai commencé à ça,
oui.
Je l'ai sûrement déjà dit dans un autre podcast, mais je me suis dit, en fait, on devrait tous avoir petit coach sur notre épaule qui nous accompagne dans tout ce qui se passe dans notre vie.
Bien sûr.
Il faut changer de coach de temps en temps pour avoir plein de regards différents
Exactement,
sur la vie.
Exactement, ouais.
Parce que la base du coaching aussi, c'est pas de rendre accro les gens à se faire accompagner. C'est aussi de laisser les gens aller cheminer par eux-mêmes derrière.
Ouais.
Parce que ça sert à rien si t'es toujours sous perfusion, entre guillemets, quoi. L'idée, c'est vraiment de la transformation. Mais je me suis dit, en fait, il faudrait que tout le monde ait accès à ça, quoi.
C'est
incroyable,
énorme.
C'est une richesse dingue. Et du coup, la décision que j'avais prise à l'époque, c'est que j'allais alterner toujours et jamais être sans, soit un accompagnement sur un sujet pro ou perso, soit un sujet de formation où je suis en train de me former un sujet.
Tu l'as fait? T'as gardé ce
engagement?
Ouais, carrément.
Quand je suis dans la période formation, je vois que je procrastine plus parce que t'as pas la personne qui est là pour te mettre
qui te challenge
qui te
davantage.
Pousse à avancer, tu vois. Mais clairement, c'est soit j'ai une formation que je suis en train de suivre, soit j'ai un coach.
Ouais.
Et je trouve ça hyper puissant, en fait. Ouais. Hyper puissant.
Ouais. Ouais. Oui, c'est... Je trouve que ça... Quand on n'a pas ça... Enfin, moi, je sais que si je n'ai pas ça, je sens que je suis en manque de nourriture, quoi. C'est une nourriture... C'est vrai que c'est une nourriture essentielle, quoi.
Mmh. Ouais. L'autre question, du coup, que les gens attendent sûrement...
Ah oui.
C'est la question de ce podcast, c'est... Si tu avais une question à poser à nos auditeurs cette semaine pour qu'ils prennent un temps pour réfléchir à leur activité, un peu en intériorité, c'est quoi la question que tu aimerais leur poser cette semaine?
En fait, j'ai un peu réfléchi à ça, parce que je sais que tu poses cette question à la fin. Je me suis dit qu'il y avait une question peut-être qui rejoignait à la fois le pourquoi et le fait qu'on soit unique. C'est quelle empreinte on a envie de laisser. Quelle empreinte on a envie de laisser à un prospect, quelle empreinte on a envie de laisser à un client, quelle empreinte on a envie de laisser dans le monde. Et c'est vrai que, tu vois, moi, quand je rencontre quelqu'un, alors c'est les enfants, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime faire de manière plus large pour tout le monde aussi. Quand je rencontre quelqu'un, moi, j'aime voir ce qu'il y a de beau en lui. Et ses trésors un petit peu. Et donc, je me dis, j'aimerais bien que quand la personne parte, elle garde cette confiance en elle, quoi, cette connexion à ses trésors. Et en même temps, le comment, pour moi, c'est la joie, la douceur, tu vois, quelque chose de... Je trouve que notre monde est violent quand même. Donc, c'est ça que j'ai envie d'apporter. Et je me dis, oui, peut-être cette question-là, qu'est-ce que chacun dans son activité, on a envie de laisser comme empreinte, tu sais, comme un petit sillage ou une trace. Et c'est vrai que on le vit tout le temps. Enfin, des fois, tu lis un mail, il suffit de une phrase ou quelqu'un qui dit quelque chose dans la rue. Et en fait, tu repars et ça laisse une couleur en toi. Enfin, tu vois, cette... quelqu'un qui va dire quelque chose de gentil ou de délicat on repart pas de la même façon, je trouve, dans sa vie ou dans ce qu'on a à faire.
C'est clair.
Donc voilà, qu'est-ce qu'on aurait envie chacun de
laisser comme empreinte.
Voilà.
Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est une question qui à la fois peut paraître très intérieure, de réflexion sur soi, mais aussi super actionnable, en fait, parce que dans tout ce qu'on fait dans notre activité, que ce soit, comme tu dis, quand on prend un café avec un prospect, quand on travaille sur son marketing, on peut réfléchir à, OK, c'est quoi l'empreinte et quel souvenir j'ai envie de laisser à la personne pour qui je fais ça,
exactement,
après ça. Et toi, il y a un truc que ça me fait sourire, parce que je trouve que tu le fais très bien. À chaque fois qu'on se croise, j'ai l'impression que Je repars toujours avec un petit cadeau de toi. Tu laisses des petits cadeaux sur ton chemin. La dernière fois, c'était un carnet. Ouais. La fois d'avant, c'est tes poèmes dépliants avec les petites illustrations. Ouais. Et j'ai l'impression que tu laisses des petites traces et du coup, des petites empreintes partout sur ton chemin où tu vas. Comme pour tes ateliers, tu partageais dans le Slack de la formation que tu leur envoyais maintenant des lettres pour proposer de faire l'atelier.
Oui.
Pareil, c'est une petite trace que tu laisses plutôt qu'un mail. Enfin,
oui.
Et je vois qu'il y a cette réflexion qui est un peu partout dans ce que tu fais, donc je trouve ça génial.
C'est vrai.
C'est vraiment cool. On arrive du coup à la conclusion.
Oui.
Où est-ce que les gens qui ont écouté cet échange, qui veulent peut-être en savoir plus sur ce que tu fais, te confier leurs enfants pour que tu les accompagnes dans la remise en question, enfin la remise en confiance de ce qu'ils font au travers de l'écriture.
Oui.
Où est-ce que les gens peuvent échanger avec toi, voir ce que tu fais, lire tes articles?
Et ben avec plaisir. Moi, j'adore échanger, donc j'adore répondre quand on m'écrit. Donc j'ai un site où je présente ce que je fais, où j'ai un blog, donc cecileglassman.fr. J'ai aussi un profil LinkedIn, donc Cécile Glassman, on me retrouve facilement. Et puis on peut m'écrire sur le mail écrit@cecileglassman.
Ok, très bien. Mais je mettrai tous les liens dans la description de toute façon pour que les gens puissent retrouver ça facilement. Super. Je te dis un énorme merci pour cet échange.
Merci.
C'était
à toi,
un super
Thomas.
Plaisir et
merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Ciao.
Ciao.
Alors j'espère que vous avez apprécié ce zoom sur l'activité de Cécile, où elle en est, le concret de comment elle s'y prend pour développer son activité, ses réflexions sur sa clientèle et tout le reste, toutes les autres choses dont on a parlé. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore écouté mon épisode solo, l'épisode 20 sur le marketing, je vous le recommande parce qu'il fait suite et renforce certains des échanges de cet épisode-là avec Cécile que vous venez d'écouter. Pour conclure, je voulais dire que j'ai vraiment adoré la question de Cécile cette semaine. Quelle empreinte vous avez envie de laisser sur les gens, le monde? Et du coup, je me suis dit que j'allais vous partager ma propre réponse personnelle. L'empreinte que j'ai envie de laisser auprès de toi qui m'écoutes, c'est celle d'un indépendant profondément engagé dans le fait de contribuer au chemin d'autres indépendants qui lui ressemblent. Tout simplement parce que vous m'inspirez. Tu m'inspires. Parce que comme moi, toi et les autres freelances, vous rêvez d'un mode de vie qui soit réellement à votre image, où ton travail est source d'épanouissement et de créativité à la fois, et où il te permet de contribuer à ton tour à ce qui est vraiment important pour toi, dans le monde, dans ton entourage, pour les personnes qui t'inspirent toi. Et à chaque pas que tu fais et que vous faites tous sur votre chemin de freelance, votre chemin d'indépendant, en fait, je me sens grandi et rempli d'encore plus d'énergie pour continuer de créer de nouveaux contenus et nourrir cet élan de contribution, qui m'habite et qui me drive tous les jours et tous les matins quand je me lève. Et c'est vraiment ça l'empreinte que j'ai envie de laisser. Cet élan de contribution de t'accompagner sur ta route. Et c'est aussi du coup pour ça qu'avec Marie, comme je le disais au début de l'épisode, on offre à 3 personnes une place dans notre programme d'accompagnement surf en échange de la réponse au questionnaire. Donc, pour vous rappeler, vous pouvez retrouver cette enquête en description ou sur mon site thomasburbidge.com/enquête pour participer à cette sélection de 3 freelances qui vont nous rejoindre. Et du coup, je vous repose la question de Cécile. Quelle est l'empreinte que vous voulez laisser sur vos clients et sur le monde qui vous entoure? Et en attendant votre réponse, je vous souhaite une merveilleuse semaine et vous dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.